joue à Born to be Alive. Clémentine Portier-Kaltenbach gagne et Stéphane Bern pleure.
Vous avez perdu.
C'est normalement le jingle qu'on entend le plus à cette heure-ci.
Il aura un répit
aujourd'hui. Stéphane, vous avez un répit, pas de quiz, mais un joueur et un winner, un vrai, dans ce studio.
Mais oui, Mathieu, je ne sais pas ce que je dois inventer chaque fois pour échapper à votre quiz. Nous sommes très heureux, après-midi, d'accueillir le navigateur Louis Burton, qui a franchi la ligne d'arrivée en deuxième au Sable d'Olonne dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, bouclant son tour du monde à la voile en solitaire et sans escale en 80 jours, 10 heures et 25 minutes, pile comme le héros de Jules Verne. Nous, on a suivi sa course. Bon, il se trouve qu'il nous a suivi aussi. D'ailleurs, vous vous souvenez, il nous l'avait dit.
C'est Louis Burton qui vous parle en direct de Bureau Vallée. Un bon 24 heures du Cap Horn sur ce troisième Vendée Globe. Je trouve que ce que vous faites est vraiment trop bien. Le ton de l'émission est juste. Faut rien changer. Quand on vous entend raconter vos histoires, passionnant. Voilà, par mon entremise, vous avez distillé tout autour du globe des éclats de rire et des fous rires.
On en rigole, mais on est très ému par cette petite déclaration.
On était vraiment très ému.
C'était vraiment surprenant.
Le directeur des programmes d'Europe 1 aussi.
En tout cas, Louis Burton, on est ravis de vous accueillir. Félicitations. On est heureux de vous voir en vrai et puis au sec surtout. La question est peut-être bête. D'abord, bon, moi j'ai le mal de mer. C'est-à-dire...
Est-ce qu'on a le mal de terre quand on revient?
On a un mal de terre pas possible à partir du moment où on pose le pied sur le ponton. Il y a une espèce d'amortissement, ça bouge encore un petit peu. Et puis après, on monte. Et d'un coup, on est sur du dur et il faut pas aller à 150 journalistes à tour de rôle. Les jambes ont quasiment pas servi pendant 80 jours parce qu'on est sur un bateau, on peut pas beaucoup marcher et tout. Et puis d'un coup, on piétine, on parle et on a cette espèce de montée d'étourdissement et on finit le truc médiatique. On a un peu la tête qui tourne et on a le mal de terre. Ça s'appelle vraiment le mal de terre.
Mais vous aviez du temps pour vous sur le bateau ou vous étiez occupé tout le temps?
Non, mais je vous ai emmené tous les cinq. Sans le savoir au départ, puisque je ne connaissais pas historiquement votre, et je vous ai écouté en coupant l'émission en deux, et c'est les seuls moments où on a un petit peu de temps, c'est-à-dire au moment où on mange, et puis on est dans le siège baquet, comme dans une voiture, parce que ça bouge énormément. D'ailleurs, on entend sur le bruit permanent, on a l'impression qu'il y a un moteur de voiture de course, tellement ça fait du bruit, je ne me rendais pas compte. Et puis là, on mange, donc on a les mains prises, et on a juste sur les oreilles de quoi alimenter un peu l'esprit. Passer un peu de temps et prendre du plaisir.
C'est quoi l'espace du bateau pour qu'on comprenne bien, pour ceux qui ne sont jamais montés sur ce genre de bateau? Vous avez combien de mètres carrés pour vous? C'est plutôt minuscule.
On a peut-être à disposition 2 ou 3 mètres carrés à l'extérieur et puis pareil dedans. Mais les bateaux bougent tellement qu'en fait on ne fait que passer de la position assise dans le siège baquet à la position allongée à l'intérieur pour dormir ou à genoux pour se faire à manger. Et puis on est debout uniquement quand il faut manœuvrer.
Oui. C'est très loin des croisières du Ponant que vous connaissez bien, Stéphane. Je crois que c'est pas le même confort du
tout.
Non,
pas du tout.
Et en termes de nœuds, de vitesse, j'entends bien, c'est vous filiez à combien de nœuds?
On arrive à faire le tour du monde à peu près à 15-16 nœuds de moyenne.
C'est monstrueux pour les gens qui font la voile.
C'est moins vite qu'une mobilette.
Oui, mais bon, sur l'eau.
Sur l'eau, c'est un peu plus.
Et justement, quand vous êtes sur l'eau, est-ce que Mathieu Noël est aussi drôle qu'il l'est quand il est sur terre?
Parce que oui,
il sort sa blague sur les nœuds. Ça ne va pas dans tous les milieux.
Je sais,
un milieu aquatique.
Je ne sais pas si c'est la fraîcheur ou pas, mais enfin, en tout cas, je me suis marré du début à la fin. En vous entendant tous, c'était super.
Alors, Olivier, peut-être qu'il y a des questions sur la nourriture, parce que, évidemment, il n'est pas de chef à bord.
J'ai bien compris que dans 2 mètres carrés, le piano ne doit pas être très grand et que vous n'avez pas emmené une cave à vin, des provisions, etc. Donc, ça doit être terrible de gérer de la nourriture lyophilisée. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément ce que vous avez mangé, parce que ça ne devait pas faire rêver, mais quand vous êtes arrivé sur Terre, le premier truc que vous avez voulu manger, c'est quoi?
Alors, je me suis tapé une belle entrecôte beurre maître d'hôtel. Avec des frites, un crumble et une bonne bouteille de Crozet Hermitage que j'ai pas pu boire en entier puisque j'étais pompette au premier verre.
Ah oui, on perd un peu de l'habitude.
On perd du poids en mer.
Alors j'ai perdu 7 kilos il y a 4 ans.
Vous m'emmenez.
Et cette année, non, j'ai même pris un petit peu parce que j'avais fait très attention à ce que j'emmenais et du coup, je me suis régalé du début à la fin.
Mais vous savez qu'on a fait des grands explorateurs, nous.
C'est vrai, on a fait Juan Sebastián Elcano, Magellan.
Comment vous expliquez, Louis Burton, que ça fascine autant? C'est-à-dire il y a beaucoup de sports qu'on trouve sympathiques, on est ravi d'avoir un exploit. Mais
les fléchettes, par exemple.
Oui, mais les grands explorateurs, enfin, le fait de traverser les océans, ça, c'est, je sais pas, il y a quelque chose. On rêve à travers vous, en fait.
C'est un sport qui vient du yachting. C'était un sport d'élite il y a une centaine d'années encore. C'était pas du tout populaire et c'est vrai que ça s'est démocratisé un petit peu. Et je crois que là, on faisait partie des seuls, même sportifs, à être totalement libre de pouvoir aller à gauche, à droite, de se balader, de n'avoir aucune contrainte hormis celle du vent et de la technique. Et je crois que ça a beaucoup aidé cette édition du Vendée Globe à toucher autant de personnes. Et puis après, vous savez, on fait le tour de la planète. Ça, c'est quand même un truc magique. Et on le fait avec le vent. Voilà, mais donc on a le temps de
ça. Moi, ma question que je me pose quand vous regardez, c'est est-ce qu'on a le temps de savourer ce qu'on fait est extraordinaire, mais est-ce qu'on a le temps de le savourer? Parce que c'est une course, c'est tellement stressant, j'imagine, que est-ce que vous prenez du plaisir sur le moment ou c'est après quand vous revenez à terre?
En même temps, vous n'avez pas tellement de photos à prendre, vous voyez, la mer, c'est la mer, quoi. On voit
non, non, Stéphane, non, ça change tout le temps.
Mais vous n'avez.
Louis, il y a un côté contemplatif de l'océan, du ciel, des étoiles, tout ça. Bien que parfois on puisse pas trop sortir la tête quand ça va très très vite, mais il y a ça. Si vous aimez la mécanique, voir ces luges de 20 mètres et de 7 tonnes glisser à ces vitesses-là, moi j'adore regarder mon bateau glisser. Et puis après c'est une course, donc en fait on fait l'ascenseur émotionnel, on déprime quand on perd des places, et puis on saute au plafond quand on en gagne une, deux, et puis quand ça se termine comme ça sur le
c'est bien, c'est magnifique. C'est bien pour Bureau Vallée, c'est quand même pas mal. Hein. Alors pour revenir aux origines.
Il y a une question que je me pose quand même, c'est que j'ai regardé que la première fois que quelqu'un avait fait le tour du monde tout seul, en fait, dans son bateau, c'est assez récent en fait, c'est quelques dizaines d'années. Qu'est-ce qui a rendu possible le fait de pouvoir être tout seul sur un bateau et de faire le tour du monde?
La technologie qui a amené les pilotes automatiques.
Oui.
Et la capacité à fabriquer de l'énergie pour alimenter ces pilotes automatiques. Donc, au départ, les éoliennes, puis les panneaux solaires, puis maintenant les hydrogénérateurs. Mmh. Et c'est ça qui a permis de faire ça. Le tout premier, c'est Joshua Slocum, qui a écrit d'ailleurs en solitaire. C'est en 1895. Mmh. Mais il l'a fait avec escale. Il a été obligé de s'arrêter, etc. Donc, voilà. Et c'est vrai que ça, sinon, c'est très récent. Les pionniers, c'est Tabarly et tout. Et le Vendée Globe, c'est pas si vieux. C'est 89, la première édition.
Donc, c'est pilote automatique pour pouvoir dormir et que le bateau, il continue à aller tout droit.
Ouais. Vous avez eu peur à un moment? Il y a eu des moments difficiles.
J'ai eu peur d'abandonner plusieurs fois pour des problèmes de casse technique. J'ai eu peur quand mon cousin, par alliance, Kevin Escoffier, a ouvert son bateau en deux et passé à deux doigts de rester là-bas dans l'océan. Voilà. Après, j'ai eu peur de pas être bon. Mais c'est surtout ce moment où on a cru qu'il allait y rester là. Ça, c'était un moment très compliqué à vivre. La nuit allait arriver, il y avait 5-6 mètres de creux. Il avait une balise qui, on ne sait pas trop si elle marchait, si elle ne marchait pas. Donc là, c'est pas passé loin de ne pas être drôle.
En tout cas, bravo. Ravis de vous suivre, soyez avec nous aujourd'hui.
Bon, vous êtes arrivé troisième dans la course du Vendée Globe. Alors, pour ça, il a gagné notre estime à tous, nous autres, pas seulement dans cette émission, vous voyez, je pense, de tous les Français.
Merci
à vous. En tout cas, merci.
Merci beaucoup.